Stahl de l'esprit à Paris. C'est une chose digne de remarque que Paris soit en même temps la ville du monde où l'on aime le plus l'esprit et celle où l'on semble estimer davantage la bêtise. Un homme d'esprit qui n'a pas de rente au soleil, qui a sa fortune à faire ou tout bonnement sa vie à gagner, doit tout d'abord chez nous se faire pardonner de notre point sot comme le premier venu, comme la plupart de ceux dont il aura besoin. Si à son esprit il ne joint pas un peu de malice, s'il ne sait pas à l'occasion faire un peu la bête, s'il ne s'arrange pas, tout au moins, pour bien cacher l'esprit qu'il a, il est perdu. Il n'aura plus de nuit, mal pour arriver au plus mince emploi, qu'un niais quelconque à rouler carrosse. Ce n'est point un paradoxe, c'est la plus palpable des vérités. Il semble que cette rare faculté, cette faculté essentielle, l'esprit, soit considérée par nous comme un objet de luxe dont il est impossible de tirer parti au point de vue pratique, et qu'il y a de suffisance de la part d'un homme d'esprit de prétendre à accomplir la besogne d'un sot. D'où vient donc que l'esprit soit une si pauvre recommandation dans ce Paris qu'on appelle par excellence le pays de l'esprit? D'où vient donc cette défiance dont on y accueille l'homme d'esprit à son entrée dans la vie, pour peu qu'il ait faim, et d'où aussi l'inexplicable confiance qui rencontre également les imbéciles? Bien que je n'ignore pas que la querelle des sots et des gens d'esprit doivent être éternelles et qu'elles ne puissent jamais se plaider qu'aux dépens de l'esprit et au prix de la sottise, on me permettra ici d'en dire quelques mots et d'essayer de jeter un peu de jour sur la double question que je viens de poser. Quand on fait tant que d'être sot, j'imagine qu'il doit faire bon de l'être, tout à son aise, de n'être gêné par rien ni par personne dans sa sottise, et de pouvoir se plonger dans ses petites ténèbres sans jamais que lumière y pénètre. Or, qu'est-ce qu'un homme d'esprit au milieu des sots, si ce n'est la lumière importune? On comprend dès lors qu'à l'approche de l'homme d'esprit, les rangs des sots se resserrent. Soit, direz-vous, mais que l'homme d'esprit cherche fortune ailleurs. Ce n'est pas un malheur pour un garçon de mérite que de n'avoir point à vivre avec des gens qui ne sauraient le comprendre. Je serais de votre avis, lecteur spirituel, si à côté du régiment, que dis-je, de l'innombrable armée des sots, se trouvait seulement un bataillon de gens d'esprit tout prêts à recevoir les nouvelles recrues et à leur donner un ordinaire supportable. Et ce bataillon, où est-il? Avec tout leur esprit, les gens d'esprit ne sont pas jusqu'ici parvenus à le former. La majorité a toujours détesté les corps d'élite et la grande armée dont je parlais tout à l'heure a toujours pris soin de faire avorter dans leurs germes les tentatives faites pour instituer parmi nous ce qu'on eût pu appeler le corps ou la corporation des gens d'esprit. En voulez-vous une preuve? Fouillez notre académie du génie, de la science, de la pensée, du talent, de l'éloquence, du mérite tant qu'on voudra. Mais le fauteuil de l'esprit proprement dit, le tapissier de l'académie, n'a pas encore fabriqué. L'homme d'esprit dans notre société n'est donc par le fait qu'un tirailleur réduit souvent à la maraude et dont le sort est d'être tué presque toujours sans que personne y prenne garde dans quelque combat d'avant-poste. Je n'exagère point. Et si l'on me montre dans quelques situations très en vue un petit nombre d'hommes d'esprit exceptionnellement arrivés, je dirais que ce n'est certes point à cause de leur esprit, mais malgré leur esprit, que ceux qu'on prétend m'opposer ont obtenu de s'égaler au commun de nos grands hommes politiques, par exemple. J'en appelle sur ce point aux 5 ou 6 hommes vraiment spirituels. Je dis spirituel dans le sens français, dans le sens gaulois de ce mot, qui depuis 30 ans ont occupé accidentellement quelques places sur les banquettes du char de l'État, et s'en faisant briller ou en assourdissant le feu de leurs lanternes, qui sont venus à bout d'y monter. Dès que c'est un obstacle à la fortune, dans notre société française, d'être un homme d'esprit, il s'ensuit tout naturellement que n'avoir pas d'esprit est un joli capital pour un débutant. Ces deux phénomènes s'expliquent l'un par l'autre, et chacun par des contraires. Les gens que l'homme d'esprit effraie, ce qui resserre leur rang à sa vue, le commerce un peu encrouté, le banquier sans génie, le père de famille inintelligent, le mari qui assure la fidélité des femmes, l'opinion de M. Paul de Kock, la majorité des commerçants, des hommes d'affaires, des pères de famille par conséquent, tous ces braves gens-là, l'homme médiocre leur semblable, les rassure. Il leur va comme un gant, et la logique veut que les portes qui se ferment pour le premier s'ouvrent pour toutes les grandes pour le second. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui, dans une société où l'intérêt personnel domine, ne fait pas de référence une petite place à ses côtés, à l'homme qui ne peut pas l'éclipser, à l'imbécile dont le voisinage, encore qu'il puisse être fâcheux, ne saurait du moins être inquiétant. Un homme sans valeur occupe une place, mais il ne la remplit pas. Et tandis que la place d'un homme laisse nul n'est que la place de quelque chose, celle d'un homme d'esprit est tout de suite la place de quelqu'un. Quand on s'expose à coudoyer un homme supérieur, c'est avec lui qu'il faut compter, et non avec sa fonction seulement. Convenons aussi qu'il se dit journellement autour d'un comptoir, dans le bureau d'un négociant, dans l'étude d'un tabellion, ou autour de la toque de quelques avoués, derrière la grille d'un agent de change et dans le sein d'un certain nombre de familles, partout enfin où l'intérêt est en jeu, une foule de sottises accréditées par l'usage, tolérées par la loi, nécessitées par le besoin, exigées par la niaiserie, la vulgarité ou la duplicité du public avec lequel on est en rapport, et que toutes ces choses-là, il n'y aurait aucune sûreté à changer un homme d'esprit de les dire. Elles sortiraient moins ingénument d'une conscience et d'une bouche qui serait ce qu'agir et parler veulent dire que de la conscience et de la bouche d'un pauvre diable qui met candidement toutes ses obéissances passives au nombre des vertus et qui a trouvé sans réplique qui n'y eût de défendu que ce qui n'est pas profitable, qui n'a pas entendu 10 fois dans le monde parisien des dialogues comme celui-ci. Vous connaissez Francis ? Oh, un garçon d'esprit, ma foi. Eh bien, il est notaire. Notaire ? Pas possible. Mais qu'est-ce qui lui a confié une étude ? Que voulez-vous, mon cher ? On ose tout aujourd'hui. Ou cet autre. Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu Paris, vu Paul de Kock ? C'est, oh, vous savez, celui qui a publié l'an passé une relation de son voyage en Chine, un garçon qui n'avait rien qu'un peu d'esprit. Eh bien, M. Z vient de lui donner son usine à conduire, plus la main de sa fille. Monsieur Zell, son usine ? Oh, ça ! Mais Monsieur Zell est coup de vue fou, je suppose. Oh, ne m'en parlez pas. Ou celui-ci. Vous savez bien, le petit M qui faisait mes affaires à la bourse. Ah oui, celui qui vous a donné le bon conseil. Alors, d'après ce que vous m'avez dit, mon gaillard, vous avez gagné 200 bons 1000 francs grâce à lui, il a un passé. Précisément, eh bien, savez-vous ce qu'il a fait, l'imbécile? Il a fait une pièce au théâtre français, une pièce qui a eu un succès fou. Oh, c'est un garçon perdu. Je l'ai rencontré 8 jours après son époque qui paye. Et ma foi, je ne l'ai pas mâché mon opinion. Je l'ai rencontré 8 jours après son équipée, et ma foi, je ne lui ai pas mâché mon opinion. Vous avez eu mes derniers ordres, lui dis-je. Si vous croyez que j'aurai confiance dans un auteur, vous vous trompez du tout au tout. Tant pis pour vous. Vous n'alliez avoir d'avoir perdu la tête, mais aujourd'hui, vous m'offririez un empire que je ne vous donnerais pas à commission de m'acheter seulement pour 100 francs de rente. Oui, c'était dur, mais il ne l'avait pas volé. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu, le pauvre garçon? Oh, le pauvre garçon, vous le plaignez à présent? Vous avez de la bonté du reste, par exemple. Ben, il m'a ri au nez, m'a frappé sur le ventre, et m'a dit qu'il avait parié, avant que sa pièce fût jouée, qu'il perdrait ma clientèle dès que son nom serait sur l'affiche. Que ce que je lui disais ne m'étonnerait donc pas. Et c'était nature. Un dernier exemple, tiré d'un peu plus haut. On conseillait à un président du conseil, que je ne veux pas nommer, de prendre pour collègue, dans un moment de crise, Monsieur X. Oh non, répondit-il tout net, X a trop d'esprit, il est trop fort. Il nous gênerait, etc., etc., etc. Hélas, hélas, il faut le confesser, l'esprit a tort, la société, la sottise ont raison. Il est une foule d'emplois incompatibles avec l'esprit. Il est une foule de places où un homme d'esprit ferait tache par son éclat même et se trouverait fourvoyé comme un diamant aux doigts d'un pauvre homme. Si donc, au lieu de classer un homme, son esprit ne sert qu'à le déclasser, rien n'est plus normal que l'ostracisme qui pèse sur l'esprit. Sur ce, vous tous qui avez de l'esprit, humiliez-vous et tenez-vous pour avertis qu'à moins d'un miracle ou tout au moins d'une abjuration dans les règles, votre royaume n'est pas de ce monde. Où diable nicherait-on dans un pays où sa médiocrité est un préjugé en faveur du jugement d'un homme? Il suffit presque d'être un peu bête pour avoir une notoriété de bon sens. Ce n'est pas avec de l'esprit, en effet, je parle de l'esprit d'honnête homme, le seul qui soit de l'esprit, c'est-à-dire avec de la raison sans emploi. C'est-à-dire avec cette irrésistible soudaineté, avec cette brusque et franche gaieté du bon sens qui est la marque du véritable esprit, que vous saurez faire illusion, et à vous-même et aux autres, sur le sérieux d'une entreprise peu morale, sur la valeur d'une doctrine absurde, sur l'importance d'une découverte qui n'a de prix pour personne, si le mérite d'un système politique que votre cœur condamne, et si ce talent essentiel de vous tromper vous-même et de tromper les autres vous fait défaut, vous n'êtes qu'une superfétation sociale. Est-ce là, oui ou non, la condition faite à l'esprit de nos jours? L'esprit uni à la conscience, dont il doit être inséparable pour avoir qualité d'esprit, est-il, oui ou non, un empêchement plutôt qu'une aide dans la vie moderne? Qui pourrait le nier? À ce compte, dira-t-on, le mot de l'Évangile, bienheureux les pauvres d'esprit, serait donc vrai sur la terre comme au ciel, et la condition d'homme d'esprit serait même ici-bas une des pires de notre triste humanité? Oui et non. Oui, dans l'ordre matériel. Non, dans l'ordre moral. Tout homme d'esprit digne de ce nom doit contenir un philosophe et être armé contre les disgrâces de la vie de façon à ne perdre l'esprit ni dans le succès ni dans la défaite. Or, n'opinez pas celui à qui reste l'esprit. Le plus riche et pauvre, assis sur ses millions, à côté de ce déshérité dont la besace ferait envie à la caisse de M. de Rothschild, si par impossible M. de Rothschild n'était pas un homme de génie. L'esprit porte ces constellations en même temps, en lui-même. Sa fortune, c'est-à-dire la joie de la raison satisfaite, est tout intérieure. Quoi qu'il lui arrive, il ne saurait la perdre. L'esprit, a dit M. de Rémusat, est peut-être le seul bien de ce monde qui soit sans mélange. Seul avec la vertu, il ne laisse aucun regret après lui. Disons encore, avec la rongeinière, qui ne vieillit pas, et ajoutons pour notre compte qu'il empêche la raison de vieillir. Beaucoup de gens s'inscrivent contre ces vérités, qu'importe. Cela n'ont pas réfléchi au sens exact qu'il faut donner à ce mot « esprit », qui ne signifierait rien s'il méritait les étranges et très variées significations que tous les jours on lui donne. Pour un grand nombre de bonnes gens, pour tous ceux qui font d'instinct obstacle à l'esprit, il semble qu'esprit et légèreté soient synonymes, et qu'aujourd'hui, comme au Moyen-Âge, l'homme d'esprit ne puisse prétendre qu'à l'emploi des comiques, qu'à être non le bouffon de quelqu'un. De nos jours, les rois, dit-on, n'ont plus de croix à leur cour, mais le bouffon de tous. Il a dû arriver à quelques hommes d'esprit dans nos temps agités de se dévouer à quelque noble cause, de s'y concentrer entièrement et de mourir en la servant. Et savez-vous ce qu'ils auront gagné à ce généreux sacrifice? Tous les gens d'esprit ont décidément la tête à l'envers, dira-t-on. Mais de quoi, diable, se mêlent-ils, je vous prie? Et ce sera là toute la raison funèbre que leur feront les gens bienveillants. Eux, les malveillants ne s'en tiendront pas là. Diront-ils à qui feront croire que sous ce prétendu héroïsme, il n'y eut pas quelque intérêt caché. Ils ont manqué leur but. Ils sont punis par où ils ont péché. C'est bien fait. Le malheur de l'esprit dans nos sociétés modernes, c'est qu'il ne pose pas, c'est que les périodes qui charment le niais, c'est que les phrases et les cols empesés l'agacent, c'est qu'il parle en un mot et ne déclame jamais. C'est enfin que, pour les gens d'esprit, le sérieux est au fond, tandis que pour les sots, il est à la surface. De là, ce grand et inextricable malentendu qui ne finira que quand la majorité des Français saura qu'on est peut-être plus frivole en faisant un sermon qu'en regardant voler une mouche. On me passera de ne pas appeler les gens d'esprit ceux qui n'ont d'esprit que ce qu'il en faut pour émerveiller les bavards et pour amuser et abuser les sots. Ce ne sont là que joueurs de gobelets et instrumentismes de place publique. Leurs variations et leurs tours de force ne font qu'affaire de saltimbanques. L'esprit et la raison ne sauraient avoir ni deux bureaux ni deux plumes. Ce qui n'est pas tous les deux n'est ni l'un ni l'autre. J'en dis autant de l'esprit et de la conscience. Un coquin, si spirituel qu'on le suppose, ne sera jamais qu'un homme d'esprit manqué. Et quoi me dira-t-on? Ce fripon célèbre, ce fripon merveilleux, ce fripon illustre qui a tenu la France en éveil pendant 20 ans, il n'a pas d'esprit, celui-là? À quoi on me permettra de répondre que l'homme qui n'a pas eu l'esprit de n'être pas un fripon n'est qu'un sot. L'esprit qui n'a pas le consentement des honnêtes gens et l'approbation des esprits élevés n'est pas l'esprit. L'esprit ne commence que là où il fait rêver les sots et pâlir les méchants. Hors de là, tout ce qu'on appelle esprit n'est que mirage et apparence. Le plus beau feu d'artifice ne fera jamais l'ouvrage du soleil. Il est moyen toutefois pour l'homme d'esprit de reprendre le rang qui lui est dans une société française, s'il a le cœur ferme aussi bien qu'il a l'œil pénétrant. Ce moyen le voici. Il faut qu'acceptant la situation d'isolement qui lui est faite au milieu des intérêts de tous, il se fasse résolument le spectateur et le juge de cette société qui le trouve inutile. Il faut que, s'armant d'une plume comme d'un fouet, il entre à la suite de Rabelais, de Montaigne, de Charon, de Voltaire, de La Bruyère, de La Rochefoucauld ou de Chamfort au service de la moralité publique. Pour que cette détermination soit servie par le talent, les mains jusque-là fermées pour lui ne tarderont pas à se rouvrir. Cela s'explique. Mieux vaut encore entendre tendre le bras que le dos à un homme dont la tâche est désormais de frapper. Aussitôt donc que les sots s'apercevront que dans cette main qu'on croyait si furtile, une plume a le piquant d'une épée, et qu'un mot tombé de cette bouche rieuse est capable de faire, comme la bataille d'une arme à feu, un trou aux peaux les plus dures, le respect fait place au dédain, et c'est à qui saluera le plus bas cette force hier méconnue. Les arts et les lettres, voilà le refuge, voilà le port obligé de l'homme d'esprit, qui ne sait pas trancher, qui ne sait pas transiger, et qui ne veut pas mettre son esprit dans sa poche. Port étroit, fécond en naufrage, mais en naufrage glorieux. Bien mourir ne vaut-il pas mieux que mal vivre? Non, il n'est pas d'alternative, non. Il n'est pas deux professions pour l'homme d'esprit. Il faut qu'il écrive. Celui qui n'écrit pas est une sentinelle sans fusil. Celui qui écrit, au contraire, si humble que soit le talent qu'il porte, et son papier, a une part de souveraineté, ici-bas, mais qu'il ne l'oublie pas, pour lui désormais plus de repos. Quand l'homme d'esprit apparu dans la lice, il ne peut pas désarmer. Quand il ne règne pas, on l'opprime. On vient de faire un livre sur un mot, sur ce titre, « Le roi Voltaire ». Sans faire tort à ce livre, je suis bien sûr que son titre n'est pas ce qu'il contient de pire. Voltaire a eu cet honneur de prouver que l'esprit était le maître du monde, à une époque où le monde tout entier était à refaire. La besogne était immense, mais immense était son courage, et pas un jour son vaillant esprit ne faillit à la tâche. La tâche d'aujourd'hui est moins grande. Mais est-ce pour cela que les ouvriers semblent manquer? Ou bien, au lieu d'être excités par les nobles exemples du passé, craignent-ils, après de tels devanciers, d'entrer dans la carrière? Hélas, Tous n'ont pas l'esprit de Voltaire, sans doute. Tous n'ont pas non plus sa conscience et son âme indomptable, ni sa foi dans la toute-puissance de l'esprit. Mais qu'importe ! Ne fut-on qu'un soldat sous la bannière des grands esprits qui ont illumé le monde ? Il faut servir. C'est le privilège de l'esprit qu'alors même qu'il ne peut rien pour lui-même, il peut beaucoup pour les autres. L'esprit est le seul patron que sa clientèle n'abandonne pas, car la plupart du temps, il plaide gratis. Le jour n'est-il pas venu de rappeler à tous que l'esprit n'est point un simple talent d'agrément, et que le plus mince rapport de l'homme d'esprit dans le monde sert autant ce monde que le plus admirable mouvement de machine dont s'enorgueillit, à bon droit d'ailleurs, l'industrie.